France Culture.
Le journal est présenté par Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement a pédalé dans la choucroute toute la journée concernant sa stratégie pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Elle devait être dévoilée cet après-midi et finalement, elle est reportée. Décryptage en début de ce journal avec Catherine Pétillon. La Cour de cassation s'est penchée sur le dossier de l'indemnisation des victimes du terrorisme. Qui peut prétendre à ce statut? La plus haute juridiction française était saisie par deux victimes du Bataclan et de la promenade des Anglais. Explication d'Anne Fauquemberg. 8 personnes arrêtées à Hong Kong après le gigantesque incendie qui a coûté la vie à 128 résidents dans un complexe de gratte-ciel. Les personnes interpellées sont liées à la rénovation des bâtiments. En Ukraine, le domicile du chef du cabinet et bras droit de Volodymyr Zelensky, perquisitionné dans le cadre de la vaste enquête anticorruption, Andriy Yermak a démissionné cet après-midi. Nous rejoindrons notre envoyé spécial en Ukraine, Boris Loumagne. Y aura-t-il un jour une stratégie pour l'alimentation, la nutrition et le climat? Le gouvernement avait annoncé la publication aujourd'hui de ce document destiné à articuler les politiques publiques de 3 ministères, agriculture, santé et environnement, pour obtenir d'ici 2030 une alimentation saine et moins émettrice de gaz à effet de serre. Une publication attendue depuis plus de 2 ans. Cette stratégie avait été prévue dans la Convention citoyenne sur le climat et la loi climat et résilience qui a suivi en 2021. Catherine Pétillon, bonsoir.
Bonsoir.
Finalement, le gouvernement a rétropédalé et n'a pas publié ce texte après 2 jours d'atermoiement et de changement.
Oui, c'est cet après-midi que devait enfin être présentée la version définitive de cette stratégie alimentation et climat. Autrement dit, un accord entre les 3 ministres concernés. Accord validé il y a quelques jours lors d'une réunion entre les ministères et les services du Premier ministre. Enfin, car cela fait 2 ans, vous le disiez, que les gouvernements successifs ont repoussé cette stratégie sous le poids des lobbies agroalimentaires. Le texte a été présenté hier aux journalistes. Il devait être officiellement dévoilé cet après-midi après un déplacement prévu des 3 ministre. Mais hier soir, la ministre de l'Agriculture annule le déplacement, officiellement pour une contrainte d'agenda, mais sans vouloir nous préciser ce qui a occupé la ministre à la place. Pas de publication non plus du texte aujourd'hui, ni même de date prévue. Alors pourquoi ce report? Décision de Matignon, me répondent les 3 ministères concernés, sans plus d'explications. Interrogés, les services du Premier ministre expliquent eux que Sébastien Lecornu n'a pas eu connaissance du texte et ne l'a pas validé.
Et en somme, Catherine, plus personne ne veut parler de cette stratégie.
Voilà, silence radio, sujet inflammable. Le document tel qu'il a été arbitré a été présenté aux journalistes. L'association Foodwatch a décidé de le mettre en ligne. Voilà pour le récit de ce qui aurait pu n'être qu'une très mauvaise communication politique. Mais l'incapacité à faire advenir une stratégie sur un sujet aussi crucial illustre surtout les tensions et désaccords entre les ministres concernés. Notamment entre d'un côté la santé et l'environnement et de l'autre l'agriculture. Depuis le début des discussions, ce ministère a derrière lui le poids des filières agroalimentaires qui défendent leurs intérêts économiques et concrètement s'opposent à des mesures destinées à faire baisser la consommation de viande, de produits ultra transformés ou encore de produits sucrés et salés. Des positions d'autant plus entendues au sommet de l'État que l'actuel directeur de cabinet du Premier ministre était jusqu'à récemment celui d'Annie Genevard à l'agriculture. Les associations et acteurs de santé qui depuis 2 ans espèrent une volonté politique d'agir pour une alimentation plus saine et durable s'inquiètent, même si elle finit par arriver, quel sera l'avenir et la concrétisation d'une stratégie qui peine déjà temps à émerger.
Catherine Pétillon. Après les collégiens, ce sont les lycéens qui pourraient se voir privés de portable. En tout cas, Emmanuel Macron s'y est dit favorable. Le chef de l'État s'est exprimé à la mi-journée lors d'un grand débat consacré à l'impact des réseaux sociaux sur nos démocraties. C'était organisé à Mirecourt, dans les Vosges, par les journaux du groupe Ebra.
On a en fond une crise de l'attention, ce qui est terrible pour apprendre et pour vivre en société et changer. Beaucoup de ces jeunes sont sur les réseaux, y compris à la maison, donc ils lisent plus. Et donc vous avez des jeunes qui arrivent épuisés en cours et qui après, en effet, ont besoin d'être sur leur téléphone pour vérifier, échanger, aller sur les réseaux. Et donc la stratégie, c'est interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Puis la deuxième chose, c'est l'interdiction assumée du portable. On l'avait fait dans les collèges de manière expérimentale, on l'a généralisé donc en septembre dernier. Alors il y a des techniques diverses, il y en a qui ont mis des casiers, il y en a qui disent c'est interdit de la cloche à la cloche. Et à partir de la rentrée prochaine, on veut faire plus de portables au lycée pour pour vraiment aller au bout de cette démarche et de dire, c'est pas le lieu où vous devez faire ça, c'est le lieu où vous apprenez. Parce que sinon, je vous défie d'aller en cours de récréation dans un lycée. Vous pouvez avoir des jeunes, parfois les adultes sont pas mieux. Regardez les transports en commun ou autres, qui sont la tête comme ça, à 2 mètres. Il n'y a plus aucune interaction, il n'y a plus d'humanité.
Emmanuel Macron qui a également évoqué la création d'une action judiciaire d'urgence contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. La Cour de cassation a donné cet après-midi raison au groupe de Vincent Bolloré en retoquant un arrêt de la Cour d'appel qui estimait que le milliardaire contrôlait Vivendi au moment de la scission en 4 entités il y a 1 an et que la manœuvre devait être réexaminée par l'autorité des marchés financiers. Si tel avait été le cas, le groupe Bolloré aurait dû verser plusieurs milliards d'euros aux actionnaires minoritaires. Mais si la Cour de cassation a cassé l'arrêt, elle a aussi décidé de renvoyer l'affaire en appel. La messe n'est donc pas encore dite pour le milliardaire breton. Qui peut prétendre au statut de victime du terrorisme ? Cet après-midi, la Cour de cassation, toujours elle, a rendu des arrêts très attendus sur la question. La plus haute instance judiciaire du pays avait examiné le 10 octobre dernier 3 pourvois de partie civile des attentats du Bataclan et de la promenade des Anglais. Bien qu'ayant été reconnus comme victimes par les cours d'assises qui ont jugé ces dossiers, les demandeurs s'étaient vus déboutés par la justice civile de leur demande d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, le FGTI. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Dans sa décision, la Cour de cassation a entériné l'autonomie du processus d'indemnisation des victimes d'attentats, mais elle a aussi affiné la définition de victime de terrorisme pour uniformiser les critères appliqués par le juge civil et le juge pénal.
Oui, pour la Cour de cassation, la victime d'un acte de terrorisme est une personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou de blessure, ou qui a pu légitimement penser qu'elle était exposée à ce péril parce qu'elle se trouvait notamment à proximité du lieu où se sont déroulés les faits. Sur ces critères, donc, à la fois l'autonomie du système d'indemnisation des victimes de terrorisme au civil par rapport à la procédure pénale et cette définition donc qui a été affinée. La Cour de cassation a rejeté les pourvois des 2 familles qui étaient à proximité de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 au pied de l'hôtel Le Méridien, estimant que leur préjudice résulte d'un mouvement de foule lié à la panique, une déception immense et incompréhensible pour Olivia Chalut, l'avocate de ces personnes.
Je comprends l'argument juridique, je le suis, mais sur l'application du critère de la conscience de l'exposition au risque, dans ces dossiers que je connais parfaitement sur le bout des doigts, je ne vois pas l'élément exclusif qui autorise de ne pas les prendre en compte. Ce que je suis subodore, c'est que la distance entre le camion et le méridien, qui est plus d'une centaine de mètres, était le seul élément qui a été retenu, en oubliant totalement la question de la zone de tir.
Au contraire, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel de Paris pour l'autre affaire qui concernait une habitante d'un immeuble près du Bataclan à Paris, Victor Edoux, et son avocat.
Elle, sa situation était plus évidente parce que la Cour de cassation a considéré qu'elle avait été exposée à un péril objectif de mort puisqu'elle était dans un lieu très proche du Bataclan et que son immeuble avait subi des tirs de la part des terroristes.
Ces arrêts de la Cour de cassation permettront de faire donc jurisprudence, mais il est clair que les 1500 personnes connues qui auraient pu prétendre à une indemnisation ne seront pas toutes indemnisées.
Anne Fauquemberg, merci. À Marseille, la préfète de police a tenté de calmer le jeu cet après-midi dans une conférence de presse. Hier, l'opérateur Orange a annoncé sa décision de fermer jusqu'à la mi-décembre son site du quartier de Saint-Mauron, où sont employées quelques 1000 personnes. Les syndicats d'Orange dénoncent une montée des tensions sur fond de narcotrafic. Mais cet après-midi, la préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône, Corinne Simon, a tenu à faire le point après avoir analysé la vidéosurveillance et les appels au 17 à Marseille, Mathilde Vinceneux.
Sur les grilles des locaux d'Orange, en plein cœur du quartier très pauvre de Saint-Mauron, des tags indiquent la présence d'un point de deal dans la cité voisine de Félix Piat. La situation ici ne fait qu'empirer, disent les représentants du syndicat CFE-CGC, majoritaire chez Orange. Cette semaine, c'est devenu invivable, explique Nadège Pouette, l'une des représentantes.
Pendant 3 jours, on a eu entre midi et 2, soit des altercations de groupes qui sont arrivés cagoulés pour se battre entre eux, soit carrément des tirs d'armes à feu. Chaque chaque situation a déclenché un confinement des salariés sur le site. Donc là, aujourd'hui, on demande à déménager et on n'a plus envie d'y aller.
Cela fait de longues années que le syndicat milite pour déménager les salariés d'Orange. Mais pour ce qui est des derniers jours, la préfecture de police tient à préciser qu'aucune rixe entre bandes de dealers n'a été constatée. Il y a bien eu une bagarre, mais pour un vol de trottinette. Et concernant les coups de feu qui auraient été tirés hier, la police qui s'est rendue sur place après l'appel d'un commerçant n'a constaté aucune victime, aucune douille, aucune arme. La préfète de police déléguée à Marseille, Corinne Simon.
Je ne minimise pas la situation. Il est important de comprendre que nous sommes sur un secteur qui est compliqué. C'est le secteur de la cité Félix-Piat. Nous avons des points de deal, nous avons beaucoup de trafic de stupéfiants. Il faut savoir que déjà hier, j'ai appelé le directeur régional d'Orange pour lui signifier que dès hier soir, j'ai mis des rondes et patrouilles pour rassurer et pour enlever le plus possible ce sentiment d'insécurité.
La préfecture de police se dit prête à travailler avec Orange pour renforcer la sécurité du site de Saint-Mauron.
Mathilde Vinceneux, correspondante de France Culture à Marseille. Après le scandale des poupées pédosexuelles en vente sur des plateformes asiatiques de commerce, Shein en tête, une entreprise française est dans le collimateur de la justice pour avoir proposé des articles similaires. La société Obey Me Dolls, basée en Seine-et-Marne, qui se définit comme le numéro un français et européen de la poupée sexuelle, est visée par une enquête après un signalement sur la plateforme Pharos, le portail du ministère de l'Intérieur, où sont déclarés les contenus illicites sur Internet concernant Shein. L'audience judiciaire initialement prévue avant-hier a été renvoyée au 5 décembre. À Hong Kong, 8 personnes ont été arrêtées après le gigantesque incendie qui a ravagé un complexe de gratte-ciel et qui a fait 128 morts selon un dernier bilan. Plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. C'est la commission anticorruption qui annonce ces arrestations. 7 hommes et une femme, dont 2 responsables du bureau d'études en charge de la rénovation des bâtiments qui étaient cerclés d'échafaudages en bambou. Les précisions de Dominique André.
Le vaste complexe résidentiel de Tai Po dans le nord de Hong Kong, construit en 1983, était en rénovation mais toujours habité. La police a pu entrer aujourd'hui dans les bâtiments à la recherche de preuves. La cause de l'incendie est encore incertaine. Il semble toutefois que le feu soit parti des filets placés sur les échafaudages en bambou pour protéger contre la poussière et les chutes d'objets. Ces matériaux inflammables ne répondaient pas aux normes de sécurité ainsi que les panneaux de mousse qui avaient été posés sur les fenêtres. Plusieurs habitants s'en étaient plaints. Ces matériaux dangereux auraient permis au feu de se propager rapidement. Les pompiers ont constaté aussi que les systèmes d'alarme ne fonctionnaient pas correctement, ce qui confirme les témoignages de nombreux résidents. La commission de lutte contre la corruption a apporté quelques précisions sur les 8 personnes arrêtées pour négligence grossière. Il s'agit de 7 hommes et d'une femme travaillant au bureau d'études en charge de la rénovation et des sous-traitants. 3 autres avaient été arrêtés plus tôt pour homicide involontaire. L'enquête devrait durer entre 3 et 4 semaines.
Dominique André de la rédaction internationale de Radio France. En Ukraine, nouveau rebondissement dans l'enquête anticorruption qui vise plusieurs proches de Volodymyr Zelensky. Ce matin, le domicile du chef de cabinet et bras droit du président ukrainien a été perquisitionné par l'agence anticorruption. Andriy Yermak, considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pays, pourrait être lié à ce scandale sur des pots de vin de grande ampleur dans le secteur de l'énergie. Sa démission a d'ailleurs été annoncée cet après-midi par le président ukrainien. Cette affaire qui fait beaucoup de bruit en Ukraine fragilise également Kiev sur le plan diplomatique. En Ukraine, les précisions de Boris Loumagne.
Le président ukrainien n'avait vraiment pas besoin de cela maintenant, alors que Volodymyr Zelensky mène des discussions difficiles actuellement pour parvenir à un accord de paix. Son bras droit se retrouve affaibli par ces perquisitions menées ce matin à son domicile. Andriy Yermak, chef de cabinet de la présidence, était encore il y a quelques jours à la tête de la délégation en charge des pourparlers de paix à Genève. Son implication éventuelle dans ce qui est le pire scandale de corruption de l'ère Zelensky entame donc donc la crédibilité de Kiev sur le plan diplomatique. Cette affaire a aussi des conséquences sur la cote de popularité du président Zelensky, ici en Ukraine. L'opinion publique est vent debout contre l'ampleur du scandale. 100 millions de dollars auraient été détournés en partie par des proches du président. Les suspects auraient reçu des pots de vin lors de l'attribution de marchés dans le secteur énergétique, et ce, alors même que les Ukrainiens sont confrontés à des coupures quotidiennes d'électricité.
Boris Loumani, envoyé spécial de France Culture en Ukraine. Il est avec son homologue slovaque Robert Fico, le seul dirigeant de l'Union européenne qui ne soit pas non grata au Kremlin. Viktor Orban était à Moscou aujourd'hui, reçu par Vladimir Poutine. Le premier ministre hongrois est venu lui dire qu'il allait continuer à importer du pétrole et du gaz russe qui constitue actuellement la base de l'approvisionnement énergétique de la Hongrie. Quand tous les États européens ont drastiquement réduit leurs achats à la Russie et annonce même les supprimer totalement en 2027. La Hongrie persiste. Viktor Orban s'oppose également aux sanctions contre la Russie. Et aujourd'hui, il a clairement affiché sa proximité avec Vladimir Poutine à Moscou. Sylvain Tronchet.
Après être allé à Washington obtenir de Donald Trump que la Hongrie ne soit pas concernée par les sanctions américaines sur le pétrole russe, voici donc Viktor Orban à Moscou pour faire ses achats. Le premier ministre hongrois a été reçu en grande pompe au Kremlin par un Vladimir Poutine particulièrement aimable à l'égard d'un des rares dirigeants européens qui trouve grâce à ses yeux.
Une atmosphère s'est instaurée entre nous qui nous permet de parler franchement, de discuter de toutes les questions. Nous connaissons votre position mesurée sur la problématique ukrainienne.
De son côté, Viktor Orban a expliqué qu'en dépit de toutes les pressions, il continuerait à importer du pétrole et du gaz russe. La Hongrie a saisi la Cour européenne de justice pour obtenir l'annulation de l'interdiction d'importation d'hydrocarbures russes fin 2027, votée par la majorité des États membres. Il s'est également posé en facilitateur dans le conflit ukrainien.
Nous espérons sincèrement que les initiatives récentes aboutiront à la paix. Notre rencontre me donne l'occasion de confirmer, Monsieur le Président, que la Hongrie est prête à offrir un cadre propice à de telles négociations.
La rencontre Trump-Poutine, envisagée en octobre à Budapest, n'avait finalement pas eu lieu et les conditions pour qu'elle se déroule ne semblent toujours pas réunies.
En Syrie, l'armée israélienne a mené une nouvelle opération ce matin près de Damas, opération dans le village de Beit Jin, à l'ouest de la capitale syrienne, qui a dégénéré en affrontements meurtriers selon des sources locales syriennes. Israël a ensuite mené des bombardements en représailles qui auraient fait 13 morts. Les précisions de notre correspondant en Syrie, Mohamed Erami.
À Beit Jin, village montagneux situé à quelques kilomètres de la frontière syro-israélienne, Tsahal aurait pénétré tôt ce matin pour, selon plusieurs témoins locaux, tenter d'arrêter des personnes considérées comme recherchées par Israël. L'incursion aurait rapidement tourné à l'affrontement, des habitants auraient ouvert le feu, provoquant la mort de deux civils, selon les autorités locales syriennes, et la destruction d'un véhicule militaire israélien. Des attaques israéliennes prévisibles, selon Ala, une habitante de Damas.
Avec la chute de Bachar al-Assad et notre nouvelle armée encore faible, Israël en profite. Je pense que l'État hébreu veut étendre son occupation sur notre territoire. Déjà qu'il occupe la moitié de la ville syrienne de Kounaitra au sud du pays, maintenant, ils veulent s'étendre plus largement sur d'autres régions en Syrie.
Toujours selon ces mêmes sources, l'armée israélienne aurait ensuite riposté par des tirs d'artillerie et des frappes menées par drone dans plusieurs zones du village. Des bombardements qui auraient causé la mort de 9 civils, dont des femmes et des enfants. 3 habitants auraient également été arrêtés, une situation que condamne Ahmad, père de famille rencontré dans les rues de Damas.
Personne au monde ne peut accepter cette situation. Que Dieu pardonne à Israël pour leur opération sur notre territoire et nous vienne en aide contre eux.
Si l'ampleur de cette incursion est confirmée, il s'agirait de l'un des épisodes les plus graves observés ces dernières années dans cette région du sud syrien.
En Tunisie, plusieurs figures de l'opposition, des hommes d'affaires et des avocats ont écopé de lourdes peines de prison aujourd'hui en appel. 40 personnes poursuivies pour un complot visant, selon les chefs d'inculpation, à renverser le président Kais Saied. Les peines vont jusqu'à 45 ans de prison. 20 des accusés ont fui à l'étranger et ont donc été condamnés par contumace. Les organisations de défense des droits humains fustigent un État tunisien de plus en plus autoritaire. Et puis c'est la première fois qu'un dirigeant dirigeants allemands se recueillent à Guernica, la ville basque bombardée et entièrement détruite par les nazis en avril 1937, en soutien aux troupes de Franco pendant la guerre civile espagnole. Le président Frank-Walter Steinmeier a participé aujourd'hui à une cérémonie dans un cimetière de la ville espagnole, aux côtés du roi Felipe VI et à la mémoire des centaines de victimes. Guernica est devenue le symbole de la dénonciation de la guerre grâce notamment, bien sûr, à la célèbre et monumentale toile de Picasso. La météo programme des brumes qui se dissiperont en cours de matinée, puis ciel très nuageux ensuite, vent de sud faible à modéré. Pour demain après-midi, Météo France prévoit des pluies faibles. Les températures varieront de 8 à 9 degrés. C'est la fin de ce journal. Éric Perruchot-Triboulet était à la technique, Brice Garcia à la réalisation.